Radio Foot International.
Olivier Pron.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans Radio Foot International. Tic-tac, tic-tac, c'est la der. La dame revient demain et elle aura plein de cadeaux à mettre sous votre sapin. Nous, aujourd'hui, on va parler des cadeaux que la FIFA a fait hier à Doha.
The best FIFA Football Awards.
J'ai été surpris moi-même tellement c'était speed. Faut vous expliquer pourquoi on a voulu avec Laurent Salerno vous mettre ce côté très... Hier, on a fait la même chose avec les CAF Awards, les Oscars de la CAF à Marrakech. Et comment vous dire, on comprend que Gianni Infantino, dans son jet entre Marrakech et Doha, n'a pas ramené le traducteur choisi par la CAF. C'était beaucoup plus mou, beaucoup plus calme à Marrakech que cette annonce-là, the best. Bon, c'est un peu pompeux, mais c'est la FIFA, on est habitué. The best, ça claque. Sinon, sans surprise ou presque, comme un pied de nez au Ballon d'Or, the best, donc, cette année, c'est...
The best FIFA men's player of the year is... Vinicius Junior.
Bon, pas vraiment les tambours du Bronx, mais assurément les trompettes de Doha. Vini, c'est lui, annoncé par Gianni, logique, c'est son trophée à lui, on l'a bien compris. Du coup, tout le Real était là, quelle folie! En fait, non, pas du tout, hein. Côté ambiance et engouement, on repassera. Ludovic Duchesne, bonjour.
Hello à toutes et à tous.
Vini, ça vous va?
J'ai pas. Alors, tu me connais, hein, ça va te surprendre, mais je n'avais pas de préférence avec Rodri ou avec Bellingham, et d'ailleurs, t'as remarqué qu'ils gagnent de peu. Donc c'est bien la preuve que je pense que les deux se valaient, bah, un chacun, voilà, comme ça tout le monde est content.
Ah bon, on va en reparler, ça tombe bien. Nous reviendrons quelques minutes, hein, sur le palmarès très madrilène de ces Best 2024. Nous filerons ensuite en Italie, retrouver Matteo Cioffi, ménage à trois en Serie A. Non, Jean-Philippe Bouchard, bonsoir, ce n'est pas le titre du dernier SAS, mais bien la réalité.
Mais bien la réalité. Ça existe encore SAS.
Ouais, non, je ne suis pas sûr, mais bon, quand j'ai écrit ménage à trois en Serie A, j'ai tout de suite pensé à Gérard Deville.
Ouais, et Banco à Monaco aussi, ouais.
Banco à Monaco. Atalanta devant, Naples et l'Inter en chasse derrière, c'est passionnant. À mi-parcours ou presque, le trio semble avoir décroché la Viola et devoir se disputer le titre. Naïm Moniol, bonsoir.
Salut Olivier, salut à tous.
La Serie A, ça fait partie des 15 matchs que vous regardez chaque week-end?
Surtout cette année où c'est quand même hyper plaisant avec l'Atalanta et le Napoli, qui sont deux des équipes qui jouent probablement le mieux en Europe.
Ensuite, puisqu'on ne lésine pas sur les moyens en cette période de fête, après le coup de fil à un ami en Italie, l'invité du studio 41 pour causer derby, Shahin Benabadji, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Sur RFI, vous avez co-écrit avec deux camarades Derby, les 35 chocs qui secouent le foot européen aux éditions Marabout. Avec vous, nous irons donc à Manchester, à Londres.
Il y a plein de questions.
Londres, ville de derby s'il en est. À Glasgow, à Rome, à Istanbul, à Belgrade ou encore à Moscou. Quand je vous dis qu'on lésine pas sur les moyens. Et tout ça, c'est gratuit. Pierre-Olivier Guérin a tout réglé. Laurent Salerno va orchestrer. Et nous, eh ben, on va pas niaiser.
FIFA Men's Player 2024, Vinicius Junior.
Il s'appelle Vinicius Junior, Vinido, au champion, c'est Vinicius.
On a des auditeurs formidables, hein. Laurent Salerno a retrouvé cette pépite, là, je ne sais pas exactement d'où il nous avait envoyé cette... C'était un carton et en même temps, vous l'avez compris, je discute avec Laurent et d'où venait ce chanteur qui nous chantait les louanges de Vinicius Junior. On essaiera de retrouver ça, on s'en souvient pas, mais en tout cas, voilà, il chantait, bon, pourquoi pas, pourquoi
pas. C'était pas Mbappé qui chantait.
Non, je suis pas sûr qu'il ait chanté d'ailleurs. Oui, il n'est pas dans le 11 type non plus, on en reparlera. En ce qui concerne Vinicius Junior, 24 ans, 7e saison avec le Real, en moyenne depuis 4 saisons, j'ai regardé, quasiment 20 buts par saison justement. Logique, the best Vinicius Junior, Naïm Moniol.
Oui, parce que de toute façon, il aurait même dû prendre le Ballon d'Or cette année. Rodri aurait dû l'avoir l'année dernière, mais bon, comme il faut toujours le donner à Messi parce qu'il a appris à ne pas faire ses lacets, bon, ben, du coup, on s'est incliné. Mais c'est logique et ça récompense la saison du Real globalement. Lui, Ancelotti et les autres prennent les trophées pour ça. Ça équilibre très certainement aussi avec le Ballon d'Or qui aurait dû lui revenir. Et puis après, pour le reste, j'ai très peu d'affection pour ce genre de récompense en fait. Sont débiles parce que ça change d'une année sur l'autre. Donc
c'est pour ça qu'on est un peu ironique.
Oui, bah oui.
Mais on a des auditeurs à qui ça plaît.
Oui, mais ça plaît énormément. J'entends bien.
Ça vous plaît donc à vous aussi, Ludovic Duchesne?
Oui, j'ai pas de souci avec, avec Vinicius. Évidemment, je pense que cette année, on a favorisé l'équipe nationale, ce qui n'est pas nouveau. C'est ce qui a fait sans doute la différence. Pour le Ballon d'Or, c'est Rodri qui a été préféré à Vinicius. Là, il passe devant. Bon, voilà, c'est toujours les critères qui sont un peu fluctuants. Donc,
c'est le problème. C'est
voilà.
Un peu le problème.
Donc, suivant les critères, tu peux désigner un joueur ou un autre. Bellingham aurait très bien pu l'avoir aussi. Donc, voilà, je trouve que ça. Mais en tout cas, que Vinicius l'est, moi.
C'est quoi le podium? Parce que c'est vrai que.
Je viens de te le donner. Ouais. Vinicius, Rodri et Bellingham. Et Mbappé, puisque tu en parlais, est 9e.
45, 37, il me semble.
Carvajal, oui. Carvajal 4, là j'ai quelques interrogations, mais bon, je crois qu'on va pas en discuter.
C'est le Real.
Et 5, Yamal. Donc voilà, c'est que, de toute façon, que des grands joueurs, il n'y a pas de surprise, hein, il n'y a que des très bons. Après, sur le classement, pourquoi pas l'un ou l'autre, je pense que voilà, on a voulu peut-être récompenser. Oui. Parce que comme ils se sont séparés
On n'avait pas donné le ballon d'or à l'un.
Depuis 2016, ils se sont séparés avec le ballon d'or. On s'est dit, puisque l'un l'a pas eu, ça sera l'autre. Voilà. Mais je partage assez ce qu'a dit Naïm sur Messi. Ça fait du bien qu'il ne l'ait plus, parce qu'il ne le méritait plus depuis plusieurs années déjà. Donc,
Ça fait un peu de place. Et à propos,
on est d'accord. On salue le réfé au passage, toujours à l'écoute. On l'embrasse. Joyeuse fête.
À propos d'ironie, ce qui est rigolo, c'est que Vinicius a pas eu le ballon d'or et a le best, alors qu'il y a un critère du ballon d'or qui est l'aura, les engagements, tout ce qui est un peu hors terrain, qui normalement aurait dû favoriser Vinicius, qui n'a pas le ballon d'or, mais par contre il a le best player, qui n'a pas ce critère d'aura, lui. Donc c'est un peu ironique.
C'est ubuesque.
Shaïn, votre avis sur the best Vinicius?
Débrouille-toi avec ça.
Je partage un peu les deux premiers avis qui ont été donnés autour de cette table, c'est-à-dire que...
Et pas le mien, alors.
Je pense qu'il y a... Oui, ils étaient nombreux à peut-être à le mériter, mais bon, autant récompenser la saison du Real qui remporte une fois de plus la Champions League, effectivement. Et puis, à titre personnel, c'est vrai que c'est, cette accumulation de récompenses, qui, moi, personnellement, ça, je ne suis pas très, très fan de toutes ces cérémonies.
Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus.
Y développer, on en parlera après.
Vas-y, mon petit bonhomme.
Non, mais je sais qu'on va parler de l'équipe, on va parler de l'entraîneur, on va parler de tout ça.
Ah ben, on va parler de l'entraîneur, parce que là,
rebondirai là-dessus alors.
On est tous d'accord, non? Carlo Ancelotti? Non? Ah non?
Non, non, Xabi Alonso.
Oh ben là, voilà. Je déteste, j'aurais pas dû vous inviter. Moi, j'adore Carlo.
Alors voilà, je vais rebondir tout de suite.
Oui, je vous vois venir. Alors, on y va. Donc, Carlo Ancelotti, the best. Je trouve ça tellement
juste. Oui, d'ailleurs, profil, tu
l'as dit. Entraîneur, bon, clairement, il a gagné la Ligue des Champions, et puis bon, c'est un grand bonhomme, personne ne dit
que pour le ballon d'or ou pour le best, the best, moi je trouve extraordinaire que Leverkusen n'ait rien. Je trouve fou. C'est une équipe qui a fait une défaite dans la saison, le dernier match. Hein, c'est d'accord.
Avec un jeune entraîneur. Une équipe qu'on n'avait pas vu venir.
Et puis Wirtz qui est fantastique, et Grimaldo qui est fantastique, et un super coach. Et il y a eu un coefficient, dis-moi.
Et demander à Guardiola si c'est facile de s'installer en Allemagne, par exemple. C'est quand même une perf pour.
Et puis ça n'a pas été une année pour rien, parce qu'ils sont encore là, au moins sur cette première partie de saison. Et que ce soit pour le Ballon d'Or ou pour The Best, ils sont venus comme si c'était le Cercle de Bruges. Ils jouent bien, on les aime bien. Allez, dégage. Real Madrid, et puis machin au Barça, et puis ceci, et puis l'autre, et puis voilà. Et je trouve ça scandaleux. C'est pour ça que moi, j'ai décroché avec toutes ces trophées, ces récompenses. Ça ne ressemble plus à rien.
Après, Carlo Ancelotti, ça me dérange pas. C'est un grand, grand entraîneur. Mais il faut ramener ça aux moyens. C'est-à-dire que Leverkusen, ça reste un très bon club. Mais au budget, aux joueurs, ce qu'a fait Xabi Alonso, c'est tout à fait exceptionnel.
Donc toi, tu donnerais plutôt des prix au mérite, alors?
Non, parce que le mérite, c'est quand même de. Tu es en finale de la Ligue Europa, tu as tout gagné sinon, tu as largué le Bayern, tu as fait une saison presque parfaite, sauf le dernier match. Mais avec son effectif, avec le club qu'il a défendu et qu'il entraînait pour la première fois, je trouve que c'est exceptionnel. Comme un peu ce que fait Brest cette année. Je ne sais pas jusqu'où iront les Brestois, mais je trouve que Leverkusen, attention, ce n'est pas le même budget, mais quand même ce qu'il a fait avec Xabi Alonso,
le jeu,
il aurait dû être récompensé. Franchement.
Le jeu, et puis le coefficient de spectacularité.
Ce qui est frustrant dans ces récompenses telles qu'elles évoluent, parce qu'il y a une période, le Ballon d'Or, ce n'était pas ça. Hein.
Je sais bien.
Ce qui est frustrant, c'est que justement, ça vient sur-récompenser un palmarès déjà acquis.
Bien sûr.
Ça vient valider le palmarès de l'année. Ça n'a pas d'intérêt, il y a déjà le palmarès. faudrait mieux récompenser le mérite et voir ce qu'on fait.
C'est que dans un cas comme ça, on le donne toujours à ceux qui en ont eu 5 ou 6. On te dit, et on le dit, c'est pas un scandale qu'Ancelotti l'ait, c'est un immense coach. Comme c'est pas un scandale que Rodri ait le ballon d'or, puisque c'est un super joueur qu'il aurait peut-être même dû le prendre avant. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu un critère. On va récompenser ceux qui ont été réguliers sur les 4, 5, 6, 7 dernières années. Le problème, c'est qu'il y en a une par an de récompense. Donc moi, tu me récompenses en 2024 ce que j'ai vu en 2024. Tu me justifies pas ça avec ce qui s'est passé en 2019.
Je fais juste, Laurent Salero, note pour Annie Gasnier, ne pas réinviter un lendemain de remise de prix Naïm Magnol et Jean-Philippe Bouchard.
C'est... Alors que lui,
Que ce soit carré.
Je suis passé entre les gouttes.
Lui, Ludo Duchesne, il sera là.
Non, et un élément aussi qui est très important, et Mbappé l'a dit dans sa dernière interview sur Canal+, il a quand même dit des choses intéressantes. Et sur le Ballon d'Or, ce qu'il a dit, moi, m'a beaucoup intéressé. Il a dit, j'ai compris. J'ai compris que pour l'avoir, c'était pas seulement sur le terrain, c'est ici, en dehors. Donc, j'ai envie de lui faire confiance là-dessus. Et ça veut dire qu'évidemment, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Et que Vinicius peut être sur le Ballon d'Or, mais c'est pas l'objet de notre débat, à payer sans doute d'autres choses. Mais que voilà, ça se joue aussi dans les coulisses, parce que là, quand on regarde, il y a évidemment que des grands joueurs et que des grands entraîneurs, mais peut-être que ce soit Leverkusen, c'était moins glamour.
Alors, y a-t-il un grand gardien, le meilleur gardien de cette saison, d'après la FIFA et les votants? C'est Emiliano Martinez, notre ami argentin et gardien de but d'Aston Villa. Votre avis, Jean-Philippe Bouchard, sur Emiliano Martinez? J'ai pas vu, il a fait un geste déplacé cette fois ou pas?
Et ben moi je trouve que paradoxalement depuis la Coupe du Monde il est meilleur.
Oui c'est vrai.
Il est bien meilleur depuis la Coupe du Monde.
Bon, il avait été très bon la Coupe du Monde.
Oui pendant la Coupe du Monde. Avant c'était pas une évidence que c'était. Il a eu des trophées là, la Coupe du Monde meilleur gardien de Coupe du Monde etc. Il s'est fait remarquer par des gestes un peu théâtraux mais. En fait, depuis...
Vous dites théâtre, vous. Moi, j'appelle ça vulgaire, mais...
Oui, aussi.
C'est un abruti, je pense.
J'en sais rien. Il a fait une interview dans France Foot qui était super intéressante, où il expliquait son rôle, comment il travaillait. Ouais, enfin bon, c'est pas par hasard quand même. Son niveau, et je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas doué naturellement et qui travaille énormément. Donc là-dessus, moi, j'y trouve du mérite à cette récompense. Sur la durée, sur le maintien au niveau, parce que ça arrive de faire une grosse Coupe du Monde, dans une grosse équipe, ça peut arriver, mais se maintenir après, une fois qu'on a gagné une petite surprise, ça c'est respectable.
Shaïn Benabadi, je vous ai vu réagir.
Contrairement peut-être à Donnarumma qui est un peu déçu après l'Euro. Pour regarder un petit peu la première ligue, pour moi c'est un des meilleurs gardiens du championnat anglais actuellement. Il sort des matchs incroyables.
Villa fait une super saison.
Il enchaîne plutôt bien. En Coupe d'Europe comme en championnat. Alors oui, c'est vrai que c'est un personnage.
Le personnage est détestable, on peut le dire comme ça.
Ouais, on peut le dire comme ça, surtout après ce qu'il a fait en finale, enfin après la finale de la Coupe du Monde en France. On va avoir du mal à l'aimer, à l'apprécier. Mais pour ses qualités sportives, quand on regarde les matchs à Aston Villa, honnêtement, c'est un super goal.
C'est un grand oui à ce niveau-là. Après,
super goal.
L'interview dont parle Jean-Philippe, je l'ai aussi parcouru et ça m'a pas rapproché d'Emiliano de Martinez. Ça m'a pas.
Je dis pas que c'est un personnage sympa.
Ça m'a pas rapproché. J'ai trouvé que ses explications, encore une fois, étaient assez lunaires. Mais après, sur le joueur, sur la compétence et le niveau du mec. Rien à dire, c'est un gardien exceptionnel. Moi, là-dessus, c'est validé. Après, Olivier, on n'est pas obligé d'être un grand penseur pour être un grand joueur.
Exactement, ne l'oublions pas. Allez, Naïm, fracassez-moi ça.
Non, ils ont raison. Ce n'est pas un scandale, qu'il se soit pour Yachine ou pour cette récompense-là. C'est un super gardien qui, là aussi, joue dans une équipe qui n'est pas une grande équipe d'Europe et qui a aussi des vrais résultats.
Ça
ne me gêne pas. Après, le personnage, il est rentré là-dedans très bien. Après, de manière très chauvine, un Mike Maignan n'aurait pas fait tâche.
Il fait 7, je crois.
Septième.
Ouais, septième.
Ouf, c'est un peu loin.
Si on se projette un petit peu plus loin, la meilleure joueuse, Aitana Bonmati, elle, au moins, elle fait le doublé. Ouais. Elle a eu le ballon d'or, c'est logique. La joueuse espagnole de Barcelone.
Ce qui est drôle, c'est que autant sur les hommes, quand t'as le ballon d'or, machin, t'as des débats, on prend des critères. Alors qu'en foot féminin, tu prends la meilleure joueuse de la meilleure équipe, tu récompenses chaque année, généralement, tu te trompes pas trop. T'as pas de débat, t'as pas d'esclandre. Voilà, le mérite, voilà, ça ne remet pas, ça ne change rien pour moi au niveau du foot féminin en général, mais bon, voilà.
Non, ils ont tout gagné, donc forcément les Espagnols, c'était assez facile pour le coup. Même si la deuxième, c'est une Zambienne, hein, c'est Barbara Banda.
Qui a glané le prix CAF lundi soir à Marrakech. On en a parlé hier de Barbara Banda, championne des États-Unis. Elle a marqué en finale avec un club d'Orlando, Orlando Prime.
Pride, ouais, ouais, c'est réussir aux États-Unis, c'est pas facile.
Mais
c'est...
Et puis elle a eu une vie compliquée, hein. Elle n'a pas pu faire la CAN précédente parce que les histoires de testostérone, enfin bref, voilà, elle a dû prouver qu'elle était bien une femme.
Mais le football féminin africain se développe vraiment bien et vite. Et lors de la dernière Coupe du Monde, voilà, on a aimé la Zambie, on a aimé le Nigeria, l'Afrique du Sud. Très, très belle performance. Donc, elles sont au niveau et c'était bien qu'elles soient comme ça deuxième. Bon, elle est assez, quoique non, elle est à 13 points de Aitana Bonmati qui a tout gagné. Donc, c'est une bonne performance. Et la troisième, eh bien, c'est Caroline Graham Hansen. Voilà, qui joue aussi à Barcelone, c'est pas un hasard.
Avant de passer rapidement pour finir au 11 type, il y a un petit truc rigolo, c'est la première fois qu'existe le prix Martha, le plus beau but féminin, et qui l'a gagné ?
Martha.
Martha, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est vrai que c'est assez original, ça n'arrivera pas deux fois a priori, mais ça mérite d'être signalé. Le 11 type, 4 joueurs du Real, c'est beau chercher, il n'y a pas Mbappé dedans ? Il
jouait pas encore Real.
Il va déprimer, vous croyez ou pas? Martinez, Carvajal, Ruben Dias, Rudiger, Saliba, Bellingham, Rodri, Kroos, Yamal, Haaland, Vinicius. Petit commentaire rapide, alors, non, logique, classique, rien à dire.
Je pense qu'il manque quand même Florian Wirtz.
Ouais, c'est pas sûr que cette équipe-là soit.
Oui,
gagne la Ligue des Champions.
Là non plus. Pour moi, il n'y a pas de joueur de l'Atalanta, il n'y a pas de joueur de Leverkusen. Ils sont toujours des joueurs très bons, hein, mais après, on regarde toujours l'équipe. Par contre, Saliba dedans, ça, je suis content parce que c'est mérité. Et Dieu sait que ce n'était pas le plus doué au départ des défenseurs en Angleterre. Là aussi, il y a un gros boulot. Et voilà, bravo à lui. Vraiment top.
Alors, on a bien parlé, tellement parlé qu'on n'a pas entendu les acteurs. Et on va pas écouter Carlo Ancelotti, ça l'a pas. Mais en revanche, quand même, ce que je vois, Laurent Salerno, il déprime.
Il est triste.
Ouais. Bah, le gars, il monte. Voilà, machin. Il faut quand même écouter Vinicius, monsieur Salerno. Écoutons donc Vinicius et après, on passera à autre chose.
J'étais un enfant qui jouait pieds nus dans la rue à San Gonçalo. Très proche de la pauvreté et de la criminalité. Alors, ma présence ici est quelque chose de très important. Parce que je veux montrer aux enfants qu'il est possible d'y arriver. Je tiens à remercier mon président, ainsi que mon entraîneur, le Mister Carletto. Ils m'ont toujours beaucoup aidé. Ils ont cru en moi, alors que j'avais à peine 16 ans. Je veux remercier mes coéquipiers aussi. Ils m'ont fait confiance et ils savaient que je pouvais faire la différence afin que nous puissions réaliser ensemble de grandes choses au cours de la saison. Et je souhaite continuer longtemps à le faire avec le Real Madrid.
Ben voilà, c'est un peu comme hier, il est content d'être heureux, quoi.
Bien sûr.
Hein, c'est ça, il n'oublie personne, et ça c'est bien. Voilà pour Vinicius, donc le meilleur joueur.
On aurait pu changer avec les discours des Miss France.
Ouais. Oui, peut-être aussi. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur The Best, ces Oscars de la FIFA, dont on se passera dorénavant assez bien. Rendez-vous l'année prochaine, malgré tout, on va filer en Serie A. The Best FIFA Football Awards.
L'Atalanta ha vinto 1-0.
Premier du classement, l'Atalanta 37 points.
L'Atalanta, decima vittoria di fila.
Big Rom Lukaku lanciato in profondità.
Deuxième, le Napoli 35 points.
Nicolò Barella con un gol incredibile.
Troisième, l'Inter 34 points.
Collo perfetto che muore sotto l'incrocio dei pali alla destra di Van.
Vous aurez noté le polyglotte Pierre-Olivier Guérin, le mec passe de Vinicius
il parle allemand,
à l'Italie. Oh, bon, non, rien ne lui fait peur, il est là le Pierrot. Ménage à 3 en Serie A, donc disais-je, et pourquoi pas la Fiorentina est décrochée, Naples et l'Inter lancés dans la course à l'Atalanta. Matteo Cioffi, bonjour.
Bonjour tout le monde, bonne soirée.
Comment ça va du côté de Milan?
Ça va pas mal, chez vous?
Oui, bon, bah, c'est un temps de fête, quoi. Matteo, faisons simple, le titre est promis à ce trio?
Oui, Non, oui, c'est alléchant, c'est passionnant, on s'amuse bien, et parce que tout d'abord, il y a l'Atalanta, la belle Atalanta, peut-être moins belle à voir, mais plus efficace hein, dans cette saison, car conserver l'avantage du score coûte que coûte est devenu le nouveau diktat de Giampiero Gasperini. On l'a remarqué par exemple samedi dernier face à Cagliari, battu 1-0 après un match plutôt souffert pour les Bergamasques. L'association est que la DA est devenue une femme mûre et non plus une adolescente. Arrêtons de l'appeler surprise, car c'est une réalité qui désormais vise le titre qui serait le prochain chapitre d'un projet qui a démarré il y a 9 ans avec l'arrivée du technicien. Gasperini. Depuis lors, le club est arrivé 5 fois dans les 4 premiers au classement, a disputé 4 Ligues des Champions, 3 finales de la Coupe d'Italie et a remporté une Europa League. Une équipe qui aujourd'hui semble complète, la défense assure et s'est renforcée avec l'arrivée de l'Ivoirien Odilon Kossounou. Derrière lui, on remarque toujours plus Carnesse qui, selon une bonne partie de l'opinion publique, est prêt à devenir le gardien de la squadra azzurra à la place de votre grand aimé Gigio Donnarumma. Le milieu de terrain
est c'est l'ami de Laurent Salerno surtout.
Je sais très bien. Le milieu de terrain est synonyme de qualité. Là, on signale l'appui considérable du Brésilien Ederson qui est partout et du Néerlandais Martin de Roon, un fidèle de Gasperini et capable de mettre de l'ordre dans le jeu de l'équipe. Et puis l'attaque Lugman, on le connaît désormais tous. 8 buts en championnat et joker offensif sans un rôle précis. Et en plus, à son côté, il y a Matteo Retegui, avant-centre de la nationale italienne, et qui, à mon avis, est la grande révélation de cet Atalanta pour l'Italo-Argentin. 12 réalisations qui lui permettent d'être en ce moment le meilleur buteur de la Serie A.
Messieurs, un petit mot sur l'Atalanta. On rappelle, hein, j'ai regardé depuis le 24 septembre, c'est-à-dire il y a un siècle, 16 matchs, une défaite de nul, 13 victoires, toutes compétitions confondues. La défaite. La seule, c'est en Ligue des Champions à domicile face au Real, qui était tellement en danger. Dans ces cas-là, le Real sait faire. En Serie A, c'est 10 sur 10, hein. 30 points sur 30 pris. Et puis, on aimerait bien, c'est... ça changerait.
Ah bah oui, et puis comme le Napoli, puis c'est surtout une équipe qui sait à peu près tout faire sur un terrain, c'est-à-dire qu'elle est capable de jouer avec le ballon dans les pieds, elle est capable d'exploser en contre, elle est capable d'attaquer, elle est capable de défendre. La qualité baisse très peu et sur certains postes, pas du tout quand tu changes de joueur. Tu as un turnover qui est quand même... Je te rappelle, c'est une équipe qui a perdu Coupe Miners quand même. C'est pas rien, Coupe Miners à l'Atalanta la saison dernière. C'est une équipe qui joue bien, qui est forte. Gasperini qui est là depuis longtemps maintenant, 9 saisons, c'est énorme, surtout pour une équipe qui ne gagne pas, qui n'est pas championne, qui a gagné une Coupe d'Europe, mais qui n'est pas championne d'Italie. Et moi, je trouve que c'est une équipe qui, ouais, je le dis, avec le Napoli, c'est probablement une des équipes qui joue le mieux en Europe, vraiment.
Un petit mot, Ludo ?
Ouais, ils sont intéressants, surtout qu'ils avaient très très mal commencé. C'est pour ça que tu as pris les stats à partir du mois de septembre, parce qu'ils ont quand même, sur les 3 premières journées, ils avaient perdu 2 fois, et notamment contre Torino.
Ah, il est là, Matteo.
Non, sur les 3 premières journées, 2 fois.
Ah, non, pardon, dans les 5, ils ont perdu 3.
Ouais. Ok, ouais, donc ils ont vraiment mal commencé. Et c'est dire que leur aujourd'hui, le fait qu'ils soient leaders, bon, si l'Inter gagne, ils vont revenir à la hauteur. Mais c'est vrai que ça fait un peu de changement et. On est content de voir l'Atalanta, comme on serait content de voir la Fiorentina ou la Lazio. On a envie un peu que ça bouge, que ça change. Et sur ce qu'a démontré l'Atalanta l'année dernière, moi j'ai été bluffé. Hein, le match contre Leverkusen, les 2 matchs contre Marseille, qu'on a vraiment suivi, où on a vu vraiment la différence qu'il pouvait y avoir entre ces 2 équipes, par exemple, sans appuyer trop fort pour les Marseillais. Mais ce que fait l'Atalanta, moi je valide totalement.
Il y a quelque chose, c'est que c'est une équipe qui, depuis 4, 5, 6 ans, ne se trompe quasiment pas sur le recrutement.
Ouais, c'est ce que disait. Sous-entendait en tout cas Matteo, c'est un vrai projet avec un entraîneur qui l'a depuis longtemps.
Et ça c'est rare, hein, parce que tu te rends compte que dans beaucoup de grosses équipes, tu peux te rater sur la mercato.
Ça marche tant qu'on n'est pas au sommet, et c'est là que les ennuis commencent. Ils sont champions d'Italie, on verra comment ils gèrent.
Matteo, à 2 points, mais avec des résultats en dents de scie, hein, depuis début novembre, et une lourde défaite à domicile, justement 3-0 face à l'Atalanta. On a le Napoli, battu 2 fois également récemment par la Lazio, en coupe et en championnat.
Oui, en effet. Faisons attention que Antonio Conte ne nous écoute pas, hein, parce que à chaque fois qu'on lui demande si son équipe pourra gagner le titre, il s'enflamme, répond énervé que ça n'a aucun sens de lui poser cette question, que c'est fou de penser au Scudetto à ce moment de l'année. Il a peut-être raison, mais on sait très bien que qu'il joue un peu la comédie, car c'est lui le premier à croire que la victoire finale est possible. Il a su remettre sur pied une équipe complètement déchirée. Il a su la relancer avec de nouveaux effectifs. La défense est devenue un point fort. C'est la meilleure du championnat avec seulement 11 buts encaissés. Le milieu de terrain peut compter sur la solidité de Zambanguis et de Stan Lobotka. Et c'est de là difficilement rate un match. Et à cette solidité s'ajoute... S'ajoute en plus la qualité de l'Écossais Scott McTominay, qui est la nouvelle recrue, qui s'est tout de suite intégrée dans l'équipe. Et là devant, en attaque, c'est vrai, il n'y a plus Victor Osimhen, et à sa place, il y a Romero Lukaku, 5 buts à 4 passes décisives pour les Belges, qui, pour l'instant, n'a pas encore rejoint son top niveau. Hein. Barasquelia, lui, reste l'homme offensif plus dangereux pour les adversaires, mais il est en ce moment blessé. Cela donnera une chance à quelques remplaçants, et ce sera sûrement le cas du Brésilien David Neres, 27 ans, ex-Ajax et Benfica. C'est un joueur très attendu. Pour lui, le président De Laurentiis a dépensé 30 millions d'euros. Dimanche, face à l'Udinese, il a été éblouissant. Et à ces propos, je vous invite à écouter ce qu'Antonio Conte a dit du Brésilien à la fin de la rencontre.
David méritait d'être titulaire. Voilà un message pour tous. C'est important de répondre présent quand on est appelé. Neres s'est beaucoup entraîné au cours des 5 derniers mois et demi. Il a compris comment s'intégrer dans les mécanismes de notre système de jeu, avec ou sans le ballon. Aujourd'hui, il a démontré une chose. Celui qui est en bonne forme joue.
Antonio Conte. Donc on ne dit pas du tout que Naples va être champion. Parce que c'est des fois qu'il nous écoute. Hier, on a espéré qu'Evers Faye nous écoute. Là, on lance la même invite à Antonio Conte. S'il passe par Paris, qui vient de voir Annie, est très accueillante. Elle sera ravie, et nous aussi. Et le troisième larron, Matteo, on avance. C'est l'Inter. Une Lazio écrabouillée, hein, éparpillée façon puzzle, lundi soir chez elle, par le troisième larron donc, de cette course au titre. Un titre qu'il détient. L'Inter Milan, 6-0 au Stadio Olimpico. Et les Nerazzurri à 3 points de Bergame avec un match en moins.
L'Inter, un peu comme Yannick Sinner, joue 7 matchs. Hein.
c'est juste à côté, en plus, le Foro Italico, hein, juste à côté du Stadio Olimpico.
Oui, c'est vrai. Et oui, c'est, alors, l'Inter avait besoin d'un exploit comme celui face à Lazio pour lancer un signal très fort. Les interistes ont toute l'intention de remporter un deuxième scudetto d'affilée. Et le 6-0 face aux Romains a redonné confiance aux Nerazzurri. Les tons sont montés d'un cran. Le président Beppe Marotta a qualifié l'Atalanta comme le lièvre et l'Inter comme son chasseur. Marcus Thuram a évoqué hier dans une interview que son rêve est celui de conquérir un deuxième scudetto avec l'Inter. L'entraîneur Simone Inzaghi, de son côté, a répondu aux critiques qu'il avait reçues dans ces jours-là. Et après le match, a déclaré que cette victoire fait taire ceux qui veulent du mal de l'Inter. Bref, l'Inter montre les muscles et sort de sa cachette. Il a une meilleure attaque de la Serie A avec 40 buts. Et cela même si Lautaro Martinez n'arrive pas à trouver facilement la voie de filet comme il l'avait fait l'année passée où il avait gagné le titre de meilleur buteur avec 24 buts. L'Argentin, pour le moment, inscrit seulement 5 réalisations. Mais pas de souci, il y a Marcus Thuram qui, en championnat, a déjà marqué 11 fois. Et à Marcus Thuram, il faut ajouter les autres 14 joueurs de l'équipe qui ont réussi à réaliser au moins un but, aspect qui montre comme Inzaghi peut compter sur un groupe élargi et de très bonne qualité.
C'est un parcours identique au Bergamasque. Hein. Depuis le 22 septembre, une défaite dans le derby face au Milan AC. Donc 15 matchs disputés, une défaite en Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen dont on a parlé tout à l'heure. 2 nuls et 12 victoires en Serie A. C'est 9 victoires et 2 nuls sur les 11 derniers matchs.
Voilà, des victoires avec beaucoup de buts à chaque fois.
Ils ont un milieu de terrain qui est probablement le milieu de terrain le plus prolifique d'Italie, hein, ce qui est monstrueux. Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, avec les deux latéraux très hauts, Di Marco et Dumfries, t'as quand même une ligne de 5
qui est folle. Ils mettent 6-0, mais ils avaient déjà mis 5-0 à Vérone.
Il y a un nul, je crois, c'est 4-4.
Ils font 4-4 contre la Juve. Donc en fait, il y a du monde pour marquer des buts quand même.
Après, c'est toujours pareil, c'est quand t'es aussi fort, quand t'as autant dominé comme ils l'ont dominé la saison dernière, tu te dis comment ils vont se relancer. Est-ce que maintenant l'étape du dessus, c'est la Coupe d'Europe. Hein. On les attend aux Coupes d'Europe. D'ailleurs, on joue Monaco à la dernière journée, me semble-t-il.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est impressionnante. Mais on se régale en Italie cette année.
Il y a deux ans quand même.
On se régale en Italie cette année.
Et les champions. Hein.
Bon, on n'a pas le temps parce qu'on a surtout parlé du trio. Mais moi, j'aimerais bien prendre l'avis de Matteo sur la Lazio. Alors, c'est peut-être pas le bon moment parce qu'ils viennent d'en prendre six. Mais la Lazio, depuis le début de la saison, c'est une équipe
derrière
costaud.
Ce trio-là, on a la Fiorentina qui a décroché, qui est encore là.
Baroni fait un taf incroyable.
La Fiorentina est à 3 points de l'Inter et donc à 6 de l'Atalanta. La Lazio au même niveau. La Juve encore derrière.
La Juve.
Bah oui, mais ça n'avance pas avec les matchs nuls. Mon ami. C'est la seule équipe invaincue, mais ils en sont quand même à 10 nuls pour 6 victoires.
Ils sont déclassés totalement. Enfin, même s'ils ont battu Manchester City. Mais bon,
déclassé, c'est la Roma.
En ce moment, oui.
La Roma, 12e.
Non, mais la Juve, c'est quand même assez inquiétant.
Matteo, j'ai deux questions encore pour vous, rapidement. On joue à Noël en Italie, hein ?
Oui.
On joue le 29 décembre. Il y a un Boxing Day.
Ouais.
Ah, voilà. Mais comment on dit Boxing Day alors en Italie ?
Boxing Day.
Ah ouais, d'accord, bravo. Ouais,
c'est plus simple.
Vous avez remarqué mon accent anglais.
Oui, superbe. et cette fois, la dernière question, puisque... C'est une transition toute trouvée. Vous avez au moins un derby. Enfin, il y a le derby de Turin, bien sûr, Juve-Torino. Mais vous avez ce Milan-Inter. Celui-là, il vous concerne particulièrement. On rappelle que vous habitez Milan. On ne va pas dire exactement pour qui vous êtes, même si on le sait. Mais un derby Inter-Milan, c'est pas mal, ça.
Ouais, c'est pas mal. C'est le match des matchs si on vit à Milan. Et on commence à parler de ce défi. L'année avant la saison, on est en train de déjà parler du derby de 2026. Donc c'est quelque chose que pour les Milanais, on dit toujours, mais pas seulement à Milan, parce qu'il faut dire qu'en Italie, il y a vraiment trois vrais derbys, qui sont celui de Milan, celui de Rome et celui de Gênes. Puis c'est vrai, il y a celui de Turin, mais c'est depuis toujours un derby à sens unique. C'est toujours la Juve qui gagne, donc il a perdu un peu de charme, même si le Torino est une équipe qui a énormément de charme aux yeux des tifosi italiens. Mais bon, le derby avec le D majuscule, c'est celui de Milan et celui de Rome. Donc, ce sont des matchs pas comme les autres. Cette année, il s'est passé que l'AC Milan, après 6 défaites d'affilée, a réussi à battre les cousins grâce à un but historique, parce qu'il a été marqué par le défenseur Matteo Gabbia, qui est quelqu'un qui a commencé depuis tout petit à jouer à l'AC Milan. Donc c'est quelqu'un de la famille rossonera, chose qui, vous pouvez l'imaginer, a rendu les tifosi de l'AC Milan extrêmement contents d'avoir vu quelqu'un de la famille réaliser un but, surtout après 6 défaites consécutives. Donc c'est le derby de Milan,
c'est le derby,
c'est San Siro, ça évoque beaucoup de choses. C'est aussi un peu romantique. Allez,
bah, bien sûr, on est en Italie. Qui n'est pas romantique en Italie? Même vous allez l'être toutes les fêtes. On vous les souhaite joyeuses. Matteo, merci d'avoir été présent dans ce Radio Foot, l'un des tout derniers de l'année. On rappelle que la quille, c'est vendredi pour l'équipe de Radio Foot. Merci, à très bientôt. On passe au derby. Justement. The 163rd North London Derby. This effectively though is the knockout version.
Le coup d'envoi de ce 195e derby de Manchester.
This a derby.
Un derby indécis.
I think of a legendary
Old Firm derby.
Fenerbahçe Galatasaray, c'est une confrontation de plus d'un siècle, antérieure à la création de la République de Turquie.
Les soirs de derby, c'est un frisson complètement différent. Nos deux clubs sont comme les deux moitiés d'un même élément.
La tension monte en Serbie. Le derby de Belgrade, surnommé le derby éternel entre les deux plus grands clubs de la ville, l'Étoile Rouge et le Partizan, a été marqué par de nombreux incidents dans les tribunes.
Infinita! Tutta mia la città! Un deserto che conosco! Tutta mia la città! Questa notte un uomo piangerà!
Dit ou pas? Allez-y. C'est Laurent Salerno qui chante. À la fin. Ouais, au stade de la Juve, bon, il était complètement lâché ce jour-là. Enfin bon.
Ça va mieux depuis.
Oui, il a retrouvé sa voix. Derby des 35 chocs qui secouent le football européen aux éditions Marabout, coécrit à trois, Rémi Belot, Grégory Raïko et Shaïn Benabadji, notre invité. Rebonsoir, Shaïn. C'est quoi un derby?
Un derby, c'est quand il y a deux clubs d'une même ville qui s'affrontent. Alors, ça peut être d'une même ville, mais ça peut être aussi de deux villes qui sont vraiment très très proche comme Lille et Lens en France, mais bon, à l'origine, ça nous vient des Anglais, ça nous vient de Sheffield, et c'est en 1860 que c'est né. C'est le tout premier club de foot historique, c'est le Sheffield FC, qui un Boxing Day, un 26 décembre, est allé voir et taper à la porte de ses voisins pour leur dire, écoutez, et si on faisait un match, et c'est le premier match officiel pour les annales de football. C'est un derby, voilà.
C'était un derby, votre derby, à vous.
Ce serait Liverpool-Everton parce que je suis
le derby de la Mersey.
Supporter de Liverpool depuis très très longtemps, mais
il a été reporté il y a 15 jours.
Sur les derbies auxquels j'ai pu assister et qu'on raconte dans le livre, il y en a deux qui m'ont particulièrement marqué cette année. C'est le derby de Belgrade entre l'Étoile Rouge et le Partizan. C'est pour la fureur du Maracana. C'est un truc absolument incroyable. C'est vraiment le genre de stade, enfin le genre de match où quand on rentre dans le stade et on a un truc qui nous vient à l'esprit, c'est waouh.
On
se prend un coup dans l'estomac et on se dit ça ressemble à ça, et c'est un truc qu'on n'a jamais vu auparavant. Je pense que ça doit exister aussi à Istanbul et à Athènes, mais effectivement le derby de Belgrade, c'est une énorme
étoile rouge Belgrade, Partizan Belgrade.
Partizan, ouais, il y a une énorme rivalité entre les deux. C'est pour l'anecdote, c'est un des rares stades où quand on se rend au match, enfin au derby, très peu de supporters portent l'écharpe ou la casquette ou le maillot de son équipe.
Et pour éviter d'avoir des problèmes.
On m'a expliqué, c'est parce qu'en fait, voilà, il ne faut pas être pris dans un guet-apens à la sortie du stade.
Ils ont des armes.
Ah oui, ils ont des armes.
Donc,
venez armés, quoi. Hein. Laissez l'écharpe et venez armés.
On passe un cap, là. Ouais, c'est encore autre chose.
Ouais. Je vous sens, Naïm, ouais, vous êtes prêt à... Vous avez une question à poser, peut-être?
J'en ai plein, mais le derby, pour moi, qui incarne le mieux cet esprit derby, c'est quand même Millwall-West Ham. C'est quand même là du très très gros derby.
Il est dedans, il est content, il est dedans, bien sûr. Oui.
Il est dedans, et donc il y avait Belgrade en 1, et en 2, moi je dirais c'est Glasgow. C'est Glasgow c'est connu mondialement, et très souvent les fans de foot, les gros fans de foot, quand on leur demande s'il fallait voir un match dans la vie, ce serait lequel en tant que spectateur autour du
les catholiques face aux protestants.
Très souvent, c'est l'Old Firm qui revient.
J'aimerais
bien aller voir Celtic.
Il y a cette rivalité, cette animosité aussi, voilà, entre le Celtic et le Glasgow. C'est vraiment parce que quand on parle de Belgrade, où moi par exemple, le derby qui m'a le plus effrayé, c'est Roma à Lazio. Mm-hmm. Je l'ai vécu dans ce stade, dans le stade olympique. Mm-hmm. C'était complètement dingue. Mm-hmm. Et là, il y avait une animosité, une méchanceté. Vraiment, on y allait pour faire mal à l'adversaire qui était en face. Ça, c'était vraiment fou. Et est-ce qu'on le ressent dans ce derby de Glasgow?
C'est assez particulier. En fait, d'un point de vue particulier, je ne me suis jamais vraiment senti en insécurité dans les matchs auxquels j'ai pu assister, même à Belgrade. Même l'animosité est énorme, mais il y a tellement de policiers, il y a tellement de CRS autour du stade et dans le stade, même devant les toilettes, etc. C'est qu'on se dit, finalement, il ne peut rien m'arriver. C'est-à-dire que même si j'ai une écharpe du Partizan ou de l'Étoile Rouge, il y a 10 000 flics autour du stade. En revanche, à Glasgow, il y a un truc qui est assez fort, c'est que partout où je suis allé, en fait, dans toutes les villes, j'ai discuté avec plein de supporters et je leur ai demandé, est-ce que vous, malgré la rivalité, est-ce que vous avez des amis de l'autre camp? À Belgrade, à Hambourg, à Milan, etc. Et on m'a toujours dit, oui, effectivement, j'ai un pote qui supporte Sampdoria, j'ai un pote qui supporte l'Inter, effectivement, mon cousin, etc. En revanche, à Glasgow, j'ai posé cette question, c'est la seule ville où on m'a dit, non, j'ai aucun ami qui supporte les Rangers, aucun ami qui supporte le Celtic. À la limite, un collègue de travail, etc. Mais vraiment, c'est vraiment deux camps qui sont très bien délimités et ne se fréquentent pas du tout.
Il y a une particularité, contrairement à d'autres pays, c'est qu'en Écosse, Glasgow-Celtic, ça joue le titre quasiment tous les ans. Oui. Alors que ce n'est pas le derby entre le 9e et le 12e. Oui. C'est que là, en plus, tu as la rivalité sportive qui vient couronner le truc. Quoi.
Tous les ans depuis 30 ans.
Rivalité religieuse et sportive.
Ouais, voilà. Puis l'aspect religieux, je pense qu'il doit entrer en compte.
Qui est même capital, à l'origine même de la rivalité.
C'est essentiellement d'ailleurs ce qui définit un derby, c'est que c'est le derby sportif, c'est le bout de la chaîne, le dernier étage de la fusée. D'une histoire politique,
même si je pense que
depuis 1888,
même si je pense que les marqueurs religieux dans cette ville ont pas disparu, mais sont un peu moins importants qu'avant, on dirait. Mais c'est avant tout maintenant un derby politique. C'est-à-dire que les supporters du Celtic vont très souvent parler de l'Irlande. Ils sont des racines irlandaises, ils se définissent comme ça. C'est souvent des descendants des immigrés irlandais qui se sont installés en Écosse, à Glasgow, au XIXe siècle pour échapper à la famine. quand ceux des Rangers, d'origine protestante, etc., vont avoir une appartenance à la couronne britannique, une allégeance à la couronne britannique qui est très très forte.
On a parlé de ce derby-là, on a parlé de Belgrade. Istanbul me semble être aussi une ville de derby. Vous avez choisi évidemment Galatasaray, Fenerbahçe, mais enfin il y a le Beşiktaş, et à Istanbul, souvent pour qu'il y ait de l'ambiance dans un stade, il n'y a pas besoin de derby, mais alors dans un derby Galatasaray, Fenerbahçe, ça doit être quelque chose aussi hein, quand même.
C'est chaud bouillant. Alors moi je l'ai vécu ce derby-là, mais... pas dans le stade, mais au sein d'une famille stambouliote, c'était en 2005, c'était le match du titre hein, entre le Fenerbahçe et Galatasaray. C'était assez marrant parce que l'ami qui m'avait entraîné dans cette famille, chez son oncle, supportait Galatasaray, son oncle supportait Fenerbahçe. Et le salon était divisé en deux. À gauche, les canapés de gauche, c'était les supporters du Fenerbahçe, et à droite, c'était Galatasaray. Et à la fin du match, donc Fenerbahçe avait gagné 1-0, et ils ne se parlaient plus.
Il se parle plus. Une question pour le jour de Noël.
Une question pour Shane. Et les dérivés de derby. Je vais donner deux exemples. En France, le derby de l'Atlantique. Bon, c'est parce que je voulais parler de Nantes. Entre Nantes et Bordeaux, qui existe. On appelle ça le derby de l'Atlantique.
Non, enfin, comme aussi, on dit, le derby de Azuréen entre Nice et Marseille.
Oui, bah, ouais, mais d'accord. Mais là, pour le coup, ils sont. Non, mais c'est une question.
Ouais,
et aussi entre Paris et Marseille. On a parlé aussi à une époque de derby de France.
C'est classique. C'est devenu classico.
C'est plus des constructions médiatiques que des rivalités urbaines. Enfin, un derby, c'est une rivalité urbaine. Donc, j'ai un peu de mal avec ces derbys de la Garonne, de l'Atlantique, de la
Côte d'Azur. Oui, on sort le mot derby de son contexte.
Ouais, voilà, c'est ce que je voulais savoir.
Si, fallait revenir aux origines étymologiques de.
Bah, on en aura pas en France.
Il n'y a qu'Ajaccio. Gazélec à Ajaccio. À la rigueur, il n'y a que celui-là.
C'est vrai, à la rigueur, il y a ça. Ouais.
Et dans deux ans, Paris FC PSG.
Voilà. Moi, j'ai une question.
Red Star PFC.
Oui, c'est vrai.
En Ligue 2.
Moi, j'ai une question, c'est est-ce que les derbies pourront encore exister ? Parce que ce qui est. Tous les derbies dont on a parlé prennent leur fondement politiquement, socialement, culturellement, parce qu'on a aussi à l'époque vécu un football où les mecs qui jouaient dans les équipes, c'était les mecs du coin, c'était les mecs du quartier, c'était le petit-fils du docker, c'était le fils du barman, machin. Le football étant devenu ce qu'il est, un business avec des joueurs qui émigrent, qui vont partout. Dans votre équipe, vous avez des joueurs de partout sauf de la ville. Vous avez des investisseurs dans le club qui sont souvent marqués politiquement parce que vous détestez le plus, mais qui, comme ils amènent quand même des liquidités qui vous font gagner, bah, vous mettez... Et en fait, ce qui compose un derby, c'est-à-dire une rivalité politique, historique, culturelle, religieuse, qu'importe, sociale, finalement, aujourd'hui, c'est devenu... ça passe au deuxième plan parce qu'il y a le vecteur économique qui fait qu'une équipe peut être représentée par tout ce que les supporters détestent. Et vice versa. Donc ma question, je ne sais pas si je suis bien clair, hein, j'essaie le plus possible. Donc ma question, c'est est-ce que les derbies tels que vous les écrivez, tels qu'ils sont nés,
c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir
suivi. Tels que vous les décrivez dans votre livre, est-ce qu'ils peuvent encore exister ou est-ce qu'ils vont se transformer?
C'est une excellente question.
Oui, c'est vrai. Pour ça, c'était long. Ouais.
En fait. Les derbies, c'est un peu l'anti-foot actuel. C'est-à-dire que ça nous ramène à un foot qu'on a connu, qu'on a aimé. C'est-à-dire que c'est une rivalité ancestrale entre deux clubs, et on sait que ça ne disparaîtra jamais. Parce que au-delà de l'argent, au-delà des stars qui sont recrutées, qui ne font que passer, etc., il y aura toujours une rivalité entre tel camp de la ville, entre le Spartak et le Dynamo, entre les Rangers et le Celtic, entre Liverpool et Everton. Donc c'est les supporters à la base qui font vivre les derbies. Et pour en avoir fait un paquet ces dernières années, je pense que ça leur passe au-dessus. En fait, c'est-à-dire que malgré le tourbillon de stats, de chiffres, de matchs, etc., ça nous ramène à... qu'il y a plein de fans qui se raccrochent à ça pour continuer.
J'entends ce que
foot.
Vous dites, mais quand les supporters de l'AC Milan, qui sont historiquement les pauvres, je caricature du Milan AC, hein, d'accord, je caricature beaucoup, voient arriver Berlusconi, qui a un pouvoir économique à l'époque, je ne vais pas dire sans limite, mais très important, ça change quand même la sociologie du supporter milanais. Là, on n'est plus sur « je suis le pauvre et je me bats contre les classes aisées de l'Inter », machin. Là, il y a un investisseur qui vient, qui t'achète l'Hollandais, qui te prend les meilleurs Italiens avec des salaires pas possibles pour l'époque. C'est à un moment donné, excusez-moi, on a le cul un peu entre deux chaises.
Ouais, mais je pense, alors il faudra poser la question aux correspondants en Italie, mais je pense que déjà, la sociologie, elle avait déjà quand même pas mal changé quand Berlusconi est arrivé dans les années 80, je pense.
Ouais. Oui, c'est ça.
C'est ça. Donc,
partie des années 80.
Il y a eu la 5 et tout.
Ouais. Ouais, et même les supporters, mais on les appelle les tournevis, les supporters milanais contre les fanfarons, les supporters de l'Inter. Même ça, ça s'est complètement lissé. La sociologie des tribunes a complètement changé. Mais effectivement, j'en suis convaincu, le derby, c'est ce qui nous raccroche encore à cette... C'est une Madeleine de Proust, en fait.
Juste pour finir là-dessus, à Barcelone, c'est pas du tout la même chose quand on est poussin d'aller s'inscrire à l'Espagnol ou au Barça.
Oui, bah, évidemment. C'est pas du tout pareil. Bien, oui. C'est vrai qu'il y a aussi ce derby-là, il y en a quelques-uns, on en parle moins, le Rayo Vallecano-Real Madrid.
Parce qu'aussi en Espagne, voilà. c'est beaucoup moins véhément qu'ailleurs, c'est beaucoup plus familial le foot en Espagne.
Je voudrais qu'on dise un mot sur la ville des derbies, c'est Londres. Indiscutablement, la ville des derbies, c'est Londres.
Il y a une quinzaine ou une vingtaine de clubs professionnels. Oh, ouais. En gros, voilà.
14, vous en listez deux, vous, évidemment, Arsenal-Tottenham.
Et le
quartier contre quartier.
Le derby du nord de Londres, ouais. Et le derby de l'est entre West Ham et Millwall.
Qui l'a cité tout à l'heure, ouais. C'est vous qui l'avez. Et c'est vrai que Londres. Pardon pour l'expression, ça pue le derby. C'est vraiment.
Il y a plein de derbies. Du coup, on ne sait jamais s'il y a vraiment une rivalité entre Brentford et Chelsea, entre Fulham, etc. Mais ils sont tous plus ou moins rivaux. Alors, il y a des rivalités très fortes entre Arsenal et Tottenham. Arsenal-Chelsea, West Ham-Millwall, Brentford-Chelsea, Chelsea-Fulham. Voilà.
Et Chahid, une petite question. Comment expliquer que, en fait, les derbies remettent un peu toujours les compteurs à zéro? C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de logique d'équipe forte ou pas, ou d'équipe bien classée ou pas dans les derbies. On voit bien que sur un derby, tu peux battre le voisin même si tu es censé être beaucoup moins fort. Et tout à l'heure, je disais que la seule défaite de l'Inter en Serie A, c'était le Milan AC qui ne fait vraiment pas une grande saison. Voilà. Comment expliquer que, justement, à travers ces derbies, ça remet le côté sportif totalement en jeu, quoi.
Bah parce que déjà, les principaux acteurs, les joueurs, ils vivent ça au quotidien. Un derby, ce n'est pas que quand il y a le match, il y a la rivalité.
Ça commence bien avant.
Bien avant, donc il y a une tension, il y a une pression qui est exercée sur eux qui est beaucoup plus importante que pour un autre match. Et puis voilà, ils se transcendent le jour J. Quoi.
Juste un mot, il nous reste 2-3 minutes. Je voudrais qu'on évoque les derbies dont vous ne parlez pas. Oui, ça arrive aussi puisque vous êtes centré sur l'Europe. On n'oublie pas. Alors, d'abord, on n'a pas parlé de Moscou. On sait Dynamo, Spartak, CSKA.
Si, on en a parlé.
Chocho Moscou, excusez-moi. Mais on n'oublie pas le Caire. Al Ahly face au Zamalek, ça c'est quand même quelque chose. Buenos Aires, ouais. Là on revient au Réfé, là on va remonter dans son estime bien sûr. River Boca, ça c'est du derby aussi, sûr, historique, ouais. Mondialement connu, et en Afrique il y en a d'autres. Ouais. Kinshasa, Abidjan avec la SEC. Bon,
au Brésil aussi.
Fla-Flu à Rio. Ouais.
Énorme derby, Sao Paulo aussi.
Corinthians, Palmeiras, voilà. Sao Paulo.
Au Mexique, les équipes elles appartiennent à des cartels.
Plus près du micro, Titi.
Je disais, oui, je me suis cru chez moi, pardon. Je disais, en Colombie, en Mexique, les clubs appartiennent à des cartels de drogue, ouais, carrément. Et donc, en fait, c'est encore un autre type de rivalité. Quoi.
Et puis vous regarderez sur les réseaux sociaux les vidéos des derbies, que ce soit à Casablanca ou Alger.
Bien sûr, celui-là.
On le dirait,
le Raja.
La ferveur est dingue, est vraiment dingue.
Ah oui, le Raja Widad.
Raja Widad et USMA. USMA
ton bouquin est sorti, là, ça y est.
Ouais. Il est sorti, ouais.
Pour Noël, c'est bon.
Pour Noël, c'est bon.
Bah ouais, pour Noël, c'est bon.
Ça fait un beau cadeau.
Les cahiers du football présentent donc Derby, les 35 chocs qui secouent le football européen. Préface de Grégoire Margoton, et pourquoi pas.
Voilà. Et donc, qui a dû vivre quelques derbies aussi.
Ça s'offre, c'est pas cher. Ça fait un beau petit cadeau de Noël.
Ouais, il est beau, c'est un beau bouquin.
C'est un super cadeau pour quelqu'un qui aime le foot.
Et puis alors, je vous encourage, pour ceux qui ont peur, il n'y a pas énormément à lire. C'est pas du pavé, c'est très illustré, beaucoup de cartes pour qu'on comprenne aussi l'histoire de ces derbies.
C'est aussi une invitation au voyage. Pourquoi pas se dire, tiens, un jour, j'irai voir tel match. Ça peut être le derby de Hambourg qui est sympa. Alors, même si le HSV est resté en Bundesliga 2, mais il y a des derbies comme ça auxquels on pense. Un des derbies que j'ai bien aimé aller voir, c'est le derby de Copenhague. On n'y pense pas comme ça, mais j'adorais aller voir ce derby. Et celui de Hambourg aussi.
Est-ce que vous pourriez faire les meilleurs derbies du monde, sortir de l'Europe, faire les derbies?
C'est un peu ce vers quoi j'ai lancé.
C'est possible, ouais,
n'oubliez pas.
C'est un autre budget.
Et on n'oublie pas les derbies d'Afrique. Merci à vous tous d'avoir été autour de cette table. Merci à vous tous, chers auditeurs et auditrices. Laurent Salerno, à très très bientôt.